Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Bienvenue pour cette nouvelle émission Nos Mémoires, une émission un peu spéciale puisque nous l'enregistrons depuis un café parisien. Et une émission aussi un peu spéciale à double titre puisque nous serons aujourd'hui à la frontière de l'histoire et de l'ethnologie, des traditions et des imaginaires. En effet, au début des années 1980, Michel Bachstrobel est allé à la rencontre des orpailleurs du Maroni en Guyane française. Elle en a tiré un récit, Les gens de l'or, un récit dense sur cette société créole dont le mode de vie a aujourd'hui presque disparu. C'est pourquoi, en rééditant son ouvrage, elle fait œuvre de mémoire mais aussi d'histoire, et ce fut une excellente initiative puisqu'elle vient d'obtenir pour ce travail le prix du livre d'histoire des Outre-mer. Et c'est là la deuxième raison de cette émission spéciale puisque Storia Voce est partenaire de ce prix créé par l'association Outre-mer Développement. Michel Bachstrobel, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venu donc à notre micro. Vous êtes ethnologue, docteur en ethnologie. Vous êtes aussi passé d'une maîtrise d'histoire de l'art à une maîtrise aussi de lettres modernes. Vous avez été enseignante dans les écoles d'art de Dakar, de Martinique et de Guadeloupe. Votre nom est synonyme de voyage. On est impressionné par le nombre de voyages que vous avez pu faire. Vous avez suivi votre mari qui est médecin et vous êtes arrivé donc en Guyane. On va voir les raisons pour lesquelles vous êtes allé en Guyane, mais peut-être un mot, Michel Bachstrobel, sur l'ethnologie. Est-ce que l'ethnologie peut être liée à l'histoire ?
Absolument. Je pense que l'histoire et l'ethnologie sont, comme on dit en créole, lions la main qu'a lavé l'autre, c'est-à-dire que l'un a besoin de l'autre et que l'ethnologie et l'histoire se complètent, s'entretiennent et ont des relations tout à fait chaleureuses. Et alors, je pense que c'est très important. D'ailleurs, mes gens de l'or, j'ai mis en sous-titre « Mémoire des orpailleurs créoles ». En fait, aujourd'hui, ce sont des archives, puisque ces gens dont je parle ont totalement disparu. Ils n'existent plus, ils sont morts, mais leur mémoire est restée vivante en tant qu'archive, peut-être, de toute une période de l'or en Guyane, des périodes de l'or de Guyane.
Et c'est pour cette raison donc que nous avons souhaité faire cette émission sous le label Nos Mémoires, parce que vous mettez en avant, au fond, la mémoire de ces gens disparus. Qu'est-ce qui vous a amené à franchir l'Atlantique, à partir d'Afrique, parce que vous étiez en Afrique, pour ensuite aller dans la région des Caraïbes et de la Guyane?
Eh bien, c'est lors du métier de mon mari. Il était médecin dermatologue à Dakar. Moi, j'ai enseigné aux Beaux-Arts de Dakar. Et nous avions envie de, après 7 ans de vie dans le Sahel, nous avions envie de retrouver un autre type de vie. Nous avions 2 enfants de 9 ans et de 2 ans et demi. Et pourquoi pas la Guyane? Des amis nous avaient dit, ah, c'est très intéressant, surtout le Maroni. La ville de Maripasoula, enfin la ville, le village à ce moment-là, le bourg de Maripasoula est très intéressant. Il faut aller voir. Il y a des marrons, il y a des Africains de Guyane, comme les a appelés Huro, c'est-à-dire des gens qui ont quitté la plantation et qui sont installés dans les bois de Guyane. Et vous verrez, c'est passionnant. Il y a des Indiens pas loin et tout ça. Donc, mon mari a été nommé au dispensaire de Maripasoula, qui recouvrait toute la grande région du sud de la Guyane, de Maripasoula jusqu'au Tumucumac. Et au bout de quelques mois d'installation, j'étais bien. Je me suis dit, je vais chercher. Un sujet d'enquête. J'avais très envie. Il y a eu des intrigues autour de ces créoles. Il y avait une espèce de folklore de l'or qui se baladait encore dans les recoins, dans les cases, dans les bistrots. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ces gens vont disparaître bientôt. C'est le moment de récolter tout cela. Et de récolter ces mémoires. Et de De toute façon, je suis partie de l'oral. Et c'est en cela aussi que c'est intéressant, je rejoins l'histoire. C'est que de l'oral, on est passé à l'écrit, et ces écrits demeurent.
Alors, peut-être resituer le Maroni, parce que nos auditeurs sont pas forcément familiers de la Guyane.
Oui.
Le Maroni, c'est dans les terres, nous sommes au fin fond de la Guyane, à l'ouest de la Guyane française.
C'est-à-dire que la Guyane française est encadrée par deux grands fleuves. À l'est, avec le Brésil, il y a un grand fleuve frontière qui s'appelle l'Oyapock, qui va donc de la côte jusqu'à l'intérieur des terres. Et l'autre partie de la Guyane, l'autre frontière de la Guyane, se fait avec le Suriname, ex-colonie hollandaise, qui va de Saint-Laurent du Maroni jusqu'au sud également, jusqu'aux affluents du Maroni, tout à fait aux sources du Maroni.
Il y a une différence entre le littoral de la Guyane française et l'intérieur des terres.
Absolument, il y a une différence historique, une différence naturelle, puisque le littoral comprend une bande assez étroite d'environ 50 km de profondeur sur environ 350-370 km de long, qui vont donc de la frontière de l'Oyapock jusqu'à la frontière du Maroni, vous voyez. Et cette bande littorale, c'est ce qu'on appelle aussi le comptoir de Guyane. C'est une économie de comptoir. Alors que l'intérieur, qui couvre environ 70 000 km², sont de la forêt amazonienne, vous voyez. Donc il y a une très grande différence. Il y a aussi une différence du point de vue du littoral lui-même. Il y a deux zones, la zone de l'Est, plutôt des marécages, et la zone de l'Ouest, plutôt des plaines, où l'on a fait des cultures, etc. Donc, voyez. Mais il faut aussi savoir que ce qui est important en Guyane, c'est le nombre de fleuves qui prennent tous leurs sources vers Saül, qui est une commune de l'intérieur, au cœur de la Guyane, et tous ces fleuves se jettent dans l'Atlantique. Donc il y a une grande opposition entre à la fois l'Atlantique et la forêt, et aussi entre le littoral et la forêt, bien sûr.
Alors, venons-en aux méthodes, puisqu'on distingue les méthodes des ethnologues et les méthodes des historiens. Là, vous avez travaillé sur l'oralité. Qu'est-ce qui distingue? Comment avez-vous travaillé pendant toutes ces années?
Eh bien,
vous parlez d'une valise, même de deux valises, remplies d'énormément de documents. Ces documents?
Ces documents, c'est d'abord des recueils écrits, des transcriptions. D'abord, il faut passer par la langue. J'ai commencé par apprendre la langue. Et c'est une langue assez passionnante à apprendre, puisqu'il y a beaucoup de déclinaisons françaises, beaucoup de mots qui sont d'origine française. Et donc, mes documents, c'était essentiellement des transcriptions de cassettes audio, puisque j'enregistrais leurs paroles. Et quand je pouvais, mais pas toujours, parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, j'étais en activité avec eux, à la fois sur les chantiers d'orpaillage, mais aussi dans les abatis, dans les champs où l'on travaille, dans les villages, etc. Donc il y a une disparité des lieux d'enquête, si vous voulez. L'ethnologue bouge. Et ce sont des gens qui ont beaucoup bougé et qui ont raconté aussi leur vie de mouvement. Beaucoup ont parcouru toute la Guyane, tous les fleuves, si vous voulez, à la recherche du bon coin, à la recherche de, selon les rumeurs, selon les choses que l'on se colporte, etc. Donc, il faut bien se dire que on est dans le mouvement. On est dans le mouvement à la fois dans la parole, dans les mouvements du canotage, les mouvements du travail de l'or. Vous voyez, c'est assez riche de ce point de vue-là.
Mmh. Oui.
Autrement que dire, c'est que c'est une l'ethnologie. C'est une recherche de l'altérité. C'est vivre une certaine altérité. Et de partager la conception du monde d'une autre société, essayer de la comprendre au cœur du vécu. C'est-à-dire, Il n'y a pas eu d'archives. Il y a bien sûr des documents sur l'orpaillage en Guyane. J'en ai lu, j'ai assisté, j'ai
cherché. Il y a des documents administratifs.
Des documents administratifs, oui. Des archives, tout cela. Il y a des gens qui ont écrit sur l'or de Guyane, des ingénieurs miniers, etc. Mais ce que je cherchais, moi, c'est la chose suivante. Qu'est-ce qui a fait que ces gens cherchaient de l'or? Qu'est-ce que l'or pour eux? Je sais bien ce qu'est l'or dans nos sociétés, depuis l'origine, depuis Jason et la quête des Argonautes, dans nos mythes occidentaux, on sait ce que représente l'or, c'est-à-dire à la fois la richesse, la parure, quelque chose d'inaltérable, mais aussi quelque chose de parfois dangereux, délicat à toucher. Et donc, quel est le sens de la quête pour ces gens dont les grands-parents étaient esclaves? Quel est le lien entre l'or et cette chose qui semble cachée et qui est non dite et qui est pourtant dans leur chair et qui est pourtant dans leur mémoire inconsciente? L'esclavage.
C'est là où il y a un travail d'histoire, parce que au fond vous naviguez sur les mythes, que ça soit occidentaux mais aussi sur l'histoire de l'esclavage, de l'abolition au 19e jusque ces années 80 qui voient peu à peu la disparition de cet univers.
Oui, bien sûr.
Alors vous parlez d'altérité et il y a une chose qui est assez fascinante. C'est vous écrivez « Rien en Afrique », parce que vous veniez de l'Afrique, je le rappelle à nos auditeurs, « Rien en Afrique ne m'avait préparé à une aussi grande diversité dans un espace apparemment aussi uniforme ». Ce que je trouve vraiment fascinant dans votre description, c'est précisément cette diversité des hommes, diversité des cuisines, diversité des musiques, diversité des rites, diversité des langues.
Absolument. Et c'est ce bourg de Maripasoula et un autre village qui a aujourd'hui complètement disparu et qui s'appelle Wakapu, qui est légèrement en aval de Maripasoula, où vivait encore une poignée d'une dizaine d'anciens orpailleurs avec leurs femmes, et aussi à Binsdorp. Bref, il y avait 3-4 lieux, ainsi que Saül, que j'ai bien connu, au centre de la Guyane. Ce sont des lieux de la diversité. Pourquoi Maripasoula en particulier? Je l'explique dans les trois portes du dispensaire. Quand je raconte que chaque petit groupe ethnique avait sa porte d'entrée au dispensaire. Et en fait, en amont vivaient les Wayana. C'est une société amérindienne installée de très longue date qui vit sur le Litani, c'est-à-dire une frange du Maroni un peu plus en amont, dans différents voyages, différents villages. Il y a également les Teko, anciens Émerillons. Donc, des Amérindiens qui viennent de temps en temps à Maripasoula en canot pour acheter quelque chose à l'épicerie. Il y avait une ou deux épiceries seulement dans le village. Venir voir le médecin ou venir faire un tour. Il y avait les Marons qui habitaient dans le haut du village, dans la partie qu'on appelait la montagne, et qui sont donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des anciens esclaves qui se sont échappés de la rive surinamienne et qui se sont réfugiés du côté guyanais pour trouver la paix, pour s'installer. Il y a eu des guerres avec d'autres marrons, etc. Et la France les a reconnus comme citoyens français à partir de 69, des années 60. Mais auparavant, ils avaient tout à fait le droit de venir s'installer en Guyane française.
Pourquoi avoir choisi d'étudier les orpailleurs tout particulièrement?
Eh bien, justement, je vous ai dit que ça m'intriguait. Les orpailleurs sont la plupart d'origine sainte-lucienne, c'est-à-dire des gens qui viennent des Antilles britanniques, ex-britanniques.
Donc il y a déjà un mouvement de migration.
Il y a un grand mouvement de migration. La Guyane est une grande terre de migration, et le reste encore. Et donc ces Saint-Luciens qui sont arrivés en Guyane, que j'ai connus dans les années 30 et 40, sont allés dans les bois pour chercher fortune, pour chercher une nouvelle vie, pour gagner leur vie et éventuellement retourner riches dans leur pays. Mais ceux que j'ai rencontrés sont un peu les perdants de cette quête. C'est-à-dire qu'ils sont restés coincés dans les bois. Pourquoi? Parce que en 49, le préfet Vignon a décidé de d'installer une commune à Maripasoula pour que ces gens reviennent, parce qu'ils venaient des Layons, ils venaient des criques. Des criques, c'est des rivières. Ils venaient de tout cet ensemble de rives, de fleuves. Et le préfet Vignon voulait leur donner un havre de paix, une école, une église, une gendarmerie, et leur donner une vie plus agréable pour la fin de leur jour.
D'où vient le terme orpailleur?
Je crois que ça vient d'un ancien mot français, arpailler. Arpailler qui signifie saisir, prendre. Je crois que il y a plusieurs auteurs médiévaux qui utilisent ce terme de harpailler, harp avec un H, et orpailler, prendre de l'or, sans doute. C'est comme ça que je mets.
Ce n'est pas lié au mot paille.
Peut-être aussi parce que la paille ou la toison d'or de Jason notamment, c'était une manière de recueillir autrefois les pépites et les grains d'or sur la toison d'un bouc ou d'une brebis. Comprenez, parce que les pépites restent coincées dans les filaments de laine et peut-être aussi de la paille. C'est possible.
Vous avez mis 6 mois avant de pouvoir accompagner 2 orpailleurs et votre première impression, elle est assez dure. Je vous cite, dérisoire, obsolète, misérable, archaïque.
Oui, je me rappelle, j'ai mis du temps. Pourquoi il faut mettre du temps? Parce que pour toucher à ce vécu et toucher à ces confins un peu secrets de l'intimité, de la subjectivité des gens. On peut pas arriver comme ça et dire, emmenez-moi dans les bois, je veux aller voir comment vous travaillez. C'est pas comme ça que j'ai fait. Il faut progressivement se faire adopter, apprivoiser, se faire adopter. Parce que autant que nous, que l'ethnologue ou celui qui cherche s'incruste dans la vie d'autrui, autrui s'incruste dans la vôtre. Et il y a un travail de l'intersubjectivité qui est fondamental. C'est-à-dire, je vais vous donner des exemples. Moi, je m'intéressais, par exemple, sur la vie de tel orpailleur isolé dans sa case. Et on me dit, ah ben oui, mais il a vécu avec telle personne. Il y a des liens de parenté, il y a des liens de filiation, ou ceci, cela, avec telle personne et telle personne. Eux aussi se demandaient cela de moi. Et ils trouvaient, d'abord, j'étais madame docteur. Donc,
vous étiez la femme du docteur.
J'étais la femme du docteur. Data ouman, disaient les marrons. Et donc, ils me refusaient rien, puisqu'ils se disaient, en rigolant, si tu réponds pas à la dame, il va te faire une piqûre, par exemple.
Oui.
Ou bien alors, ils voyaient que j'avais 2 enfants et que j'allais me balader dans les bois avec tel orpailleur ou tel orpailleur ou tel partenaire.
Or, ça ne se fait pas.
Et ça ne se fait pas. Et les femmes me disaient, mais pourquoi tu t'occupes pas de tes enfants? Elle s'occupe même pas de ses enfants. Ça y qu'à fouiller dans des affaires nègres. Elle va entrer dans des histoires de noirs, là, comme ça. Qu'est-ce qu'elle cherche? Et d'autres m'ont dit, je l'ai appris, parce que les rumeurs, c'est extraordinaire, c'est un clochemer, un village pareil. Et d'autres m'ont dit, mais tu sais, cette femme, elle va chercher de l'or. Elle veut chercher de l'or, et elle utilise des noirs pour aller faire travailler pour elle. Elle les fait travailler pour elle. Vous voyez, il a fallu que je tienne compte de tout ça. Il fallait que je comprenne comment associer tout ce que l'on me rapportait avec ce que je cherchais. En fait, je savais pas exactement ce que je cherchais. Je leur disais, vous cherchez de l'or, mais moi je cherche pourquoi vous cherchez de l'or. C'est ça qui m'intéresse. Dites-moi. Et ils me disaient, la vie femme, la vie, c'est la vie nous que cherchez.
Donc, autant la femme du docteur était acceptée, autant la chercheuse que vous êtes, ça a été beaucoup plus difficile.
Quand je disais je vais faire un livre sur vous, c'était épouvantable. Il fallait surtout ne pas le dire et je ne l'ai plus dit. Pourquoi? Parce que le seul livre qu'ils connaissent,
c'est la Bible.
Et ils la connaissent bien. Ils ont tous une Bible en anglais. Ils ont appris l'anglais dans la Bible.
Ça a été une des grandes découvertes en lisant votre livre, c'est l'importance, la prégnance du religieux.
Ah oui. Oui, le religieux un peu de l'époque, peut-être un peu médiévale ou je ne sais de quelle époque, avec des tas de croyances qui mêlent à la fois les températures, le chaud, le froid, la médecine hippocratique, les interdits, ce qui est interdit et ce qui est permis, et la dame blanche, c'est-à-dire des visions de vierges. Ils ont tous des petits chapelets, ils prient énormément Dieu, ils prient le Dieu chrétien, ils prient aussi l'Ancien Testament, ils le lisent en anglais. Et bon, tout ça, c'est vrai, c'est très important. Très important. Et c'est resté comme ça. Aller à l'église et tout ça. Mais il y a aussi le diable, hein. Il y a le diable. Et il y a les gens gagés, c'est-à-dire ceux qui font des pactes avec le diable. Et qui se retrouvent le soir dans un fromager pour aller discuter de ce qu'ils vont faire, des choses incroyables. Oui. C'est un peu raconté dans le bouquin, d'ailleurs.
Quelle vision ces hommes, parce que c'est exclusivement un univers masculin.
Oui.
Quelle vision ont-ils de l'or? Je vous cite là encore, ce n'est pas le métal qu'ils recherchent, mais j'ouvre la citation, quelque chose d'une obscure nécessité intérieure ou d'un délire.
Oui. Ce qu'ils cherchent, c'est une terre à eux. Et c'est ça qui m'amène à l'esclavage. Ils disent, en Guyane, j'ai trouvé mon lopin de terre. Pourquoi? Parce que là d'où ils viennent, que ce soit des Guyanais de Guyane même, des créoles de Guyane ou des créoles des Antilles, régnait la plantation, c'est-à-dire le travail pour le maître. La terre que l'on cultive n'est pas à soi, Elle ne nous appartient pas. À la libération des esclaves, ils ont un petit lopin de terre, mais ce qu'ils cherchent, c'est un lopin qui rapporte. Et l'or, chacun va donc se tracer un pan de terre pour y trouver l'or qui lui revient, que Dieu a mis en terre pour eux. Et c'est donc une recherche d'un destin, une recherche de quelque chose qui les associe à quelque chose qui est de la valeur, qui est de la reconnaissance, qui est de la richesse, qui est de la vertu. Parce que l'or, c'est à la fois une parure, mais c'est aussi une richesse, un signe de richesse, puisque c'est l'étalon de la richesse, et c'est aussi une vertu, c'est-à-dire que ça vous donne une certaine puissance. Et d'ailleurs, quand il me racontait que pour eux ce qui importait c'était de délimiter son chantier, tu sabres ta parcelle dans ta crique, c'est ta crique, elle est à toi, elle porte ton nom. Et les uns et les autres connaissaient les criques des uns et des autres et les nommaient ainsi. Ah là, c'est défunt Milo qui travaillait là. Je n'y vais pas. Il a dû laisser des choses mauvaises, peut-être. Et puis il est mort là. C'est pas bon. Vous voyez, tout ça, c'est plein d'esprit et plein.
Il y a une superstition.
Une superstition qui est peut-être liée à l'ancien temps ou d'anciennes croyances. Vous savez, comme dans le bocage normand ou vendéen, il y a toutes sortes de croyances en rapport avec le corps, avec les esprits et tout ça.
Alors, ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant dans votre quête, c'est j'ai vu que l'or, c'est pas simplement l'étalon, comme vous dites, c'est qu'il y a une dimension quasi religieuse, c'est un mythe assimilable au paradis terrestre.
Oui, vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est eux qui me l'ont dit, dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu aurait enfoui l'or en terre pour que Adam le retrouve à la sueur de son front, en l'ayant chassé du paradis. Et dans les anciennes traditions, que ce soit chez les Thraces, que ce soit au 5e siècle avant Jésus-Christ, que ce soit chez les Égyptiens, l'or est associé à la mort. Au culte funéraire, on met dans les tombes des bracelets en or, des objets en or, des marques d'or, etc. Pourquoi ? Pour payer le passage vers l'au-delà. En principe, il y a aussi cette croyance-là. Et donc, l'or a à voir avec la terre, avec le dessous-terre. Et quand je vous dis que avoir son lopin de terre et délimiter son champ et en se disant « ça, c'est à moi », c'est là que Dieu a mis, parce qu'il le sait en rêve, très souvent c'est un rêve qu'il annonce, c'est là que Dieu a mis l'or en terre pour moi, c'est là que je dois le chercher.
Ces hommes n'ont pas d'existence légale, c'est ce qu'il y a aussi d'incroyable dans votre ouvrage, c'est qu'on voit que il n'y a pas... Enfin, c'est une activité illégale, mais qui est au fond est tolérée.
Tout à fait tolérée, tout à fait admise. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, surtout de Sainte-Lucie, ils ont commencé par travailler sur un placer, c'est-à-dire dans une société minière, un foyer minier. Et ils n'ont pas aimé. Ils sont restés peut-être 6 mois, 1 an, le temps d'apprendre le métier. Et ils sont partis. En fait, ce sont un peu des marrons. C'est aussi un peu des marrons, c'est-à-dire des gens qui s'échappent, qui ne peuvent plus supporter, qui n'aiment pas supporter un maître ou un chef de placer. Et pourquoi ils s'échappent ? Pour trouver leur propre destin.
Ces hommes donc n'ont pas d'existence légale, on vient de le dire. On n'a pas évoqué des techniques. Les techniques
rudimentaires
sont pas très développées.
Non, elles sont absolument restées les mêmes que des premiers placers du 19e siècle, hein, puisque les grands placers datent de 1856, c'est la découverte. Dans les années 70, l'Inini, c'est 1900-1901, et les techniques sont le sluice, c'est-à-dire des caissons qui s'emboîtent, ou bien un simple caisson. Il s'agit de débourber des terres, débourber des mottes de terre, les écraser pour qu'elles deviennent comme de la boue, et passer dans des cribles pour recueillir une partie de l'or qui ne s'échappe pas, parce que beaucoup d'or s'échappait. Et en principe, ils allaient dans les chantiers qui étaient déjà repassés par d'autres. Ils ont allé... Et en cela, on peut dire qu'il y a une espèce d'ascendance des orpailleurs. Ils ont appris d'un ancien, et ils font comme les anciens, et ils vont aux mêmes endroits que les anciens.
Vous évoquez, ça va faire rire nos auditeurs, puisqu'on se retrouve donc dans un café au centre de Paris avec tout ce bruit, mais il y a précisément un bruit assourdissant dans tout cet univers.
Oui, absolument, oui, oui.
Alors qu'on imagine les hommes travaillant dans la nature, tranquillement, dans le silence.
C'est assourdissant. Ouais. Je parle notamment d'un lieu qui s'appelle Maraudeur, où nous travaillions avec deux haïtiens et un maître du chantier, un vieil orpailleur créole de Sainte-Lucie, et moi-même. Il s'agissait de presque pas de chanter, mais il fallait montrer de la joie. Il faut surtout ne jamais se fâcher sur un chantier. Il faut toujours travailler dans une espèce de bonne humeur, en blaguant, en faisant beaucoup de bruit. Pourquoi ? Pour chasser les mauvais esprits, d'une part, pour montrer que l'on est des humains, des chrétiens, on est là, on a Dieu avec nous, on est protégé d'une certaine façon des mauvais esprits qui peuvent alentour. Le bruit et l'or aime la vie, puisque l'or c'est une forme de vie, donne la vie, et donc il faut faire du bruit.
Combien de grammes un orpailleur découvre ? Est-ce qu'on a un ordre de grandeur des extractions ?
Eh ben, je vais vous dire très simplement, puisque j'ai beaucoup travaillé sur ce même chantier de maraudeur. Après 15 jours de travail, on m'a donné 5 grammes d'or.
Oui.
Et on a partagé en nombre de partenaires. On m'appelait Padna. Partenaire de même.
C'est-à-dire que vous avez reçu de l'or ?
J'ai reçu 5 grammes d'or.
Oui.
Et les autres aussi. On était à 4, il y a eu 20 grammes en une seule, en 15 jours. C'est vraiment très très peu.
C'est très très peu.
Oui, mais c'est très très peu.
Ils ne vivent pas de cela en fait. On parle toujours de la ruée vers l'or. Et c'est très intéressant parce que la ruée, on a une image un peu celle du Far West, etc.
Oui, oui, oui.
Or, c'est bien... Nous l'avons dit tout à l'heure, une migration. Mais cette migration, cette ruée vers l'or, ne fait pas des hommes riches.
Non, c'est-à-dire que les riches sont partis. Si, il y a eu des hommes riches. Mais les riches créoles se sont installés comme commerçants sur la côte. Et il y a eu des Saint-Luciens qui sont partis, qui sont retournés dans leur pays. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils sont retournés riches dans leur pays que d'autres sont revenus. On dit, ah bon, le père de tel homme est revenu de Guyane, de la Guyane. Il a fait de l'or. Regardez comme il a pu s'acheter un champ, il a pu s'acheter des bœufs. Ah ben oui, on va y aller. On est oisif, on ne sait pas quoi faire de notre jeunesse. On n'a pas de travail. Allons faire comme ces anciens. Allons repartir. Partons aussi pour la Guyane parce que c'est là qu'on fait fortune. Si, si, il y a eu beaucoup d'or qui est sorti de Guyane, mais ceux dont j'ai parlé, ceux que j'ai rencontrés, c'était un peu les losers, les perdants de la quête.
Oui. Aujourd'hui, hein, vous le dites dans votre nouvelle préface, tout cela a été remplacé par une forme d'industrie et il y a des règlements de compte. Enfin, on vit dans un univers très violent.
C'est absolument. Mais je crois que partout où il y a eu des ruées vers l'or, il y a eu
de la violence.
Oui, je pense que partout où il y a eu de l'or, il y a eu de l'illégalité, parce que ça attire l'illégalité. C'est-à-dire là où s'installent des sociétés, s'installent aussi des maraudeurs, s'installent aussi des profiteurs, des gens qui la nuit vont voler l'or dans les bacs à tâches, dans les sluices, etc. Il y a partout où il y a des ruées, il y a des mouvements d'aller et de venir. Il y a des mouvements de quête et des mouvements de rapine. Il y a, vous voyez, c'est la part sombre de l'or. La part sombre de l'or, elle est là aussi.
Le plus grand paradoxe quand même de votre ouvrage, c'est de voir au fond des descendants d'esclaves partir comme les colons des siècles auparavant à la recherche de l'or, et vous montrer que les créoles ne sont pas très, ne sont pas très avenants avec les indigènes eux-mêmes et reproduisent en quelque sorte l'esprit de domination que pouvaient avoir les colons.
Absolument, oui. Enfin, c'était le cas de certaines personnes que je cite, notamment Olympe. C'est-à-dire que ils considéraient que les marrons, les bonines, les aloukou, donc les marrons, étaient sauvages, et étaient africains sauvages. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas christianisés. Parce qu'ils vénéraient un ancêtre mythique qui est un serpent, Gadou. Et donc, c'est assez compréhensible. Ils ont reproduit le schéma de l'occidental sur le créole. Ils l'ont reproduit à leur façon sur le marron. Les Indiens, ils disaient « c'est racine la terre ». C'est racine la terre. C'est-à-dire que c'est vraiment... Les autochtones les plus profonds.
Comment définir la créolité ?
Oh, c'est très compliqué. C'est une cristallisation de société de par le monde, dans toute la zone des plantations, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, toute la zone des plantations, ainsi que les Mascareignes, c'est-à-dire la Réunion et l'île Maurice. Ce sont des cristallisations de sociétés qui associent à la fois un exil de l'Afrique, la néantisation de l'identité, le transbordement sous la férule de colons blancs dans un autre territoire tout nouveau, tout l'Amérique ou les Mascareignes. Et donc c'est des sociétés nouvelles inventées sur place qui bricolent une identité extraordinaire d'une grande richesse en empruntant de ci, de là, en prenant un peu de ceci, un peu de cela. Et par exemple, les Amérindiens ont une certaine force même auprès des créoles. Par exemple, un créole est très malade. Il va voir un créole pour le guérir. Il va voir un marron, un guérisseur marron, Et il peut aussi aller voir un Indien. Il va demander à un Indien. Il y a une espèce d'osmose qui se crée quand même en cas de besoin. Et on demande l'aide à celui-ci. D'ailleurs, les Marrons n'auraient jamais pu survivre dans la forêt sans l'aide des Amérindiens qui leur ont appris à cultiver, qui leur ont appris à manger du manioc, à préparer le manioc pour faire du couac, qui leur ont appris à pagayer sur les rivières, etc.
Ouais. Quel est leur rapport au passé? À l'heure où nous enregistrons cette émission, on parle beaucoup de tous ces événements liés à la mort de George Floyd, au passé colonial, etc., etc. Mm. Quel est le rapport au passé qu'ils entretiennent et que vous avez pu observer dans les années 80?
Dans les années 80, la société créole guyanaise avait une certaine richesse à Cayenne, à la fois festive. C'est une société festive avec des traditions très fortes du carnaval où l'on joue à être, on joue avec son identité, on joue avec le plaisir, avec la liberté. Tout est permis, le monde est peut être à l'envers. Il y a une très grande force de la danse. Et une des danses guyanaises s'appelle le kaseko, c'est-à-dire le corps cassé, brisé, peut-être en référence à l'exil premier. Mmh. Et il y a, sur le Maroni, il y a eu des fêtes de la rose et de la marguerite. Ce sont des festivités très particulières qui remontent à la France ancienne, des fêtes de la rose et de la marguerite, sans doute dans certaines provinces françaises, je crois que cela existait. On aime classifier les gens selon la couleur, selon le degré de noirceur, selon quand on est de la marguerite, on est plutôt modeste. On s'habille de bleu, on s'habille de manière très simple et tout ça. Quand on est la rose, on est exubérante, on chante, on est, vous voyez.
Il n'y a pas de vision binaire, en fait. C'est une vision, on va dire, bigarrée des choses.
Bigarrée.
Une vision plurielle.
Une vision absolument plurielle et qui reçoit et qui digère et qui transforme. C'est une société qui digère, qui bricole merveilleusement dans le sens le plus riche du mot bricoler. Mmh. Vous voyez, par exemple, la langue créole est extraordinairement riche. Elle emprunte du français, de l'anglais, du portugais. Ish, par exemple, pour un enfant, vient du portugais. Vous voyez, c'est une société que l'on peut. C'est une société du futur. Une société du futur, selon Glissant. Mmh. C'est un tout monde.
C'est intéressant parce que c'est pas pas une fois vous montrez une société qui vit dans l'idée qu'il doit y avoir une repentance avec une vision d'un passé négatif. Au contraire, c'est une société qui veut voir l'avenir et qui vit pleinement.
Oui, absolument. Ah oui, je pense, oui. Qui vit pleinement et qu'il faut connaître. Et je suis vraiment très contente que ce livre paraisse dans la collection Terre humaine, parce que c'est la première fois que paraît un ouvrage sur le monde créole. Et c'est, si vous voulez, le plus petit dénominateur commun, c'est ces orpailleurs. Je ne pensais pas que cela pouvait ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est le monde créole en général, quoi.
Pourquoi je voudrais terminer par ces orpailleurs. Pourquoi disparaissent-ils? C'est la précarité qui provoque leur disparition?
Ils sont remplacés par d'autres gens, les garimpeiros, c'est-à-dire d'autres migrants. Des migrants qui viennent du Brésil et qui envahissent en ce moment la Guyane. Mmh. Et qui, puisque ces frontières naturelles que sont les fleuves, sont véritablement poreuses, vous pensez bien que les pays pauvres des alentours, que ce soit le Suriname où il y a eu des guerres terribles depuis 86 jusqu'en 92, des guerres fratricides, ils viennent se réfugier. Et la Guyane les attire, aussi bien les Marrons que les Brésiliens.
Vous êtes retournée
Je retourne très souvent. Ouais. Je suis retournée en décembre pour un colloque sur le territoire de l'Inini. C'est justement cet intérieur qui est resté chasse gardée du gouverneur, qui est resté un territoire clos, colonial, jusqu'en 1969. Et nous avons fêté en décembre 19 la fin du territoire de l'Inini.
Eh bien, merci beaucoup, Michel Bachtrebel. Donc, Les gens de l'or, mémoire des orpailleurs créoles du Maroni, en Guyane, dans la collection Terre humaine des éditions Plomb.
Oui, et je voudrais juste ajouter que je remercie les gens
du jury
du prix d'histoire, du livre d'histoire d'outre-mer, de m'avoir décerné ce prix en 2020. Je regrette bien sûr de ne pas avoir pu assister au salon du livre et à toutes les festivités qui étaient prévues pour, à l'occasion de la sortie de cet ouvrage. Et vraiment merci au président, à tous les gens du jury, à vous-même. Merci
beaucoup. Donc je vous renvoie, chers auditeurs, à ce livre absolument admirable qui montre que l'histoire n'est pas forcément liée à l'étude des textes, mais aussi à l'oralité, à ce nécessaire échange. Merci encore, Michel Bachtrebel. Et il me reste à vous dire, chers auditeurs, merci aussi pour votre fidélité, à vous donner rendez-vous la semaine prochaine.